Va.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Depuis le début du XXe siècle, Bourmara, homme qui s'est révolté contre deux sultans du Maroc, résiste à ceux qui aimeraient le reléguer aux oubliettes de l'histoire. Pourtant, le rôle historique de ce prétendant au trône courageux et astucieux reste à définir. C'est par le roman intitulé « Bourmara, l'homme à l'ânesse », sorti aux éditions Marsam, que l'écrivain et journaliste Omar Mounir contribue à combler cette lacune dans l'historiographie du Maroc. L'auteur qui vit et travaille en Tchéquie a évoqué pour Radio Prague, la vie et les ambitions de ce héros maudit entré dans la légende. Voici la seconde partie de cet entretien. Dans ton livre, tu réserves relativement peu de place à la vie intime de Bourmara. Comment était-il ?
C'est-à-dire, dans ce domaine-là, en matière de vie intime, surtout la vie conjugale, c'était une sorte de prince arabe, musulman, bien qu'il ait été berbère, lui. Il était secret sur sa vie privée. Et pour le reste, il avait un harem. Il avait tendance à se marier beaucoup. Chaque fois qu'il engageait une bataille, qu'il gagnait cette bataille et que donc il pacifiait une ou deux tribus ou plusieurs tribus, il se mariait de l'une de ces tribus, généralement de la plus importante, parce qu'il n'y a pas mieux que le mariage et la consanguinité pour consolider un trône. Et il avait cette politique qui l'a conduit même à dépasser le nombre des 4 femmes légitimes.
Comment l'action de Bourmara a été perçue par le peuple marocain ? Est-ce que les simples gens voyaient en lui un héros, une espèce de héros ?
Une espèce de héros, certainement.
Ou peut-être un brigand.
Brigand, non. Bourmara n'est pas brigand. Bourmara, par exemple, n'est pas comme un de ses contemporains qui, lui aussi, dans le Nord, luttait contre, essayait de gratter le maximum dans cette situation-là, où il y a un affaiblissement du sultanat. Et c'est Raïsouni. Il a commencé comme brigand. Il pratiquait les prises d'otages. De cela, on ne retrouve rien chez Bourmara. Bourmara, dès le départ, il s'est déclaré, il s'est fixé un objectif, devenir sultan, et il va donc suivre ce chemin-là en vue du sultanat.
À la fin de sa vie, Bourmara a perdu son combat. Tu mets en cause la version officielle de la mort de Bourmara. Rappelons d'abord quelle a été cette version officielle.
La version officielle dit que Bourmara a attaqué Fès, qu'il avait perdu toute popularité, que les gens étaient fatigués, les tribus étaient fatiguées de combattre auprès de lui pendant 9 ans, et qu'il a été pratiquement lâché par tout le monde. Il s'est fait arrêter. Alors il s'est fait arrêter, et le sultan l'a mis dans une cage. Il l'a présenté pendant une grande cérémonie, à laquelle toutes les personnalités composant le pouvoir sultanique étaient présentes, plus le corps diplomatique à l'époque, etc. Ils ont présenté donc Bourmara au milieu de cette cérémonie pour marquer la victoire du sultan. Et par la suite, un certain nombre de jours par la suite, il va mourir. La légende dit qu'on l'a donné à des lions qui ont refusé, parce que le sultan avait des lions en cage. Et on a jeté Bourmara au lion, mais le lion a refusé de le manger. Le bas peuple de la ville de Fès, il disait qu'un lion ne mange pas un lion. Les lions ne se mangeaient pas entre eux. Donc c'était une façon de renforcer la gloire de Bourmara. Il a été tué par un coup de pistolet à la tête, sur ordre du sultan, dans des conditions extrêmement confuses. Ça, c'est la version officielle. À côté de cela, il y a...
Mais justement, tu nous laisses entendre qu'il a échappé à cette fin tragique, que le dénouement de sa vie était tout à fait différent.
Alors, je conteste indirectement cette version officielle, parce qu'elle a été rapportée par toute une série d'auteurs, notamment des chroniqueurs français, même anglais, allemands de l'époque, qui étaient au Maroc. Et il y avait beaucoup de contradictions dans les récits, y compris dans les récits rapportés et écrits par des Marocains, soit qui sont le fait de témoignages de militaires ou autres. Cette situation-là, dans laquelle il a été arrêté, si on prend en considération tous ces récits qui sont contradictoires et on essaye d'en dégager quelque chose, on arrive toujours à l'invraisemblance de ces récits. En revanche, si on pose l'idée d'un Bouhmara continuant, malgré cette mise en scène, qui finalement n'était qu'une mise en scène, parce que le roman se termine justement en disant que Bouhmara n'était pas dans la cage. Il y a Gabriel Delbrel qui a trouvé l'ex-ministre de la Défense Menbé dans un café tout à fait par hasard à Tanger et qui lui a dit que jamais Bouhmara n'était dans cette cage présentée par le sultan et que Bouhmara est tout simplement parti en Espagne et il va vivre à Torremolinos, lui et sa famille, jusqu'à sa mort. Pour des raisons stratégiques. Il va le dire lui-même à la fin. Il dit justement qu'il est à Torremolinos. Il n'a pas abandonné le combat définitivement. Il est en réserve là-bas et il pouvait toujours agir.
L'image de chaque personnage historique important est un mélange de réalité et de légende. Et finalement, dans l'histoire, c'est souvent la légende qui joue un rôle plus important que la réalité. Bouhmara n'échappe sans doute pas à cette règle. Est-ce que le sort de Bouhmara a fait naître une légende, un mythe?
Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que de toutes les personnalités, je dis bien de toutes les personnalités qui ont gravité autour du sultan, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, hormis Abdelkrim, qui s'est soulevé contre la France et l'Espagne, hormis Abdelkrim, personne n'a aujourd'hui au Maroc la popularité de Bouhmara. Il n'existe pas un Marocain petit ou grand qui n'a pas entendu ce mot Bouhmara. Évidemment, rares sont ceux qui savent qui il était et quelle est son histoire, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas dans les médias, on en parle dans la presse de temps en temps, et puis jusqu'à ce que ce roman est venu rompre le silence. Et je crois que c'est le mérite principal de ce roman, c'est d'avoir rappelé Bouhmara.
Quelle a été donc la réaction que ton livre a suscité au Maroc?
C'est un thème très vivant. La preuve, c'est qu'il est au bout de 4 ou 5 mois, la première édition a disparu, ce qui est extrêmement exceptionnel. Et puis peut-être qu'on s'achemine vers une troisième édition. Ce qui m'a un peu amusé, c'est que des jeunes et même des journalistes viennent me demander « Mais pourquoi on l'appelle Bouhmara ?» Alors, c'est-à-dire l'homme à l'ânesse, pourquoi on l'appelle l'homme ? Alors, je réponds tout bonnement, c'est parce qu'il avait une ânesse. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ne s'imaginent pas qu'un personnage d'une telle importance est une ânesse. Aujourd'hui, c'est une voiture. On ne fait pas un petit peu la distinction entre les deux époques et ils ne comprennent pas qu'il est une ânesse.
Comment peut-on interpréter donc, au début du XXIe siècle, le rôle de Bouhmara dans l'histoire du Maroc et du Maghreb peut-être? Parfois, l'histoire réhabilite les personnages qui ont été jugés trop sévèrement par les générations précédentes. Est-ce que ton livre pourrait être un pas, le premier pas vers une espèce de réhabilitation de Bouhmara?
Certainement, parce que le livre a été très apprécié au sein de l'historiographie du Maroc. J'ai donné un certain nombre d'interviews, même à des revues de distribution internationale sur Bouhmara, et j'ai recommandé à ce que le dossier de Bouhmara soit réouvert au sein d'un véritable procès historique avec la participation de l'État marocain pour le réhabiliter parce que l'histoire est injuste vis-à-vis de lui.